O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Votre trio de choc préféré est de retour. Comment ça va Julie, Antonin, Ricardo?
Ben ça va et toi?
Ben ça va très bien, merci.
Ça fait bizarre de t'entendre comme ça dès le début.
Mais ouais, ça me fait bizarre aussi de lancer l'émission et de présenter du coup aujourd'hui.
Exactement, mais en tout cas ça fait plaisir d'être là. Surtout ce soir il y a un grand événement, j'en dis pas plus, mais vous savez de quoi on va parler ce soir.
On en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais je pense que la plupart de nos auditeurs doivent déjà être au courant. Aujourd'hui au programme culture, sport et musique, puisque nous recevons l'artiste Miguel Santos. Comment tu vas?
Ça va bien et vous?
Très bien. Très bien, on est très content de te recevoir aujourd'hui.
Et également, je suis très content d'être ici.
Et bien restez avec nous pour en savoir plus, ce sera au moment de l'interview à partir de 14h50. En attendant, je vous laisse avec une musique que vous connaissez déjà, puisque nous l'avons passée sur Tempestade.com. C'est Près de moi avec Luyana, Letinox et toi, Miguel. C'est le moment de l'événement de la semaine et cette semaine nous avons deux événements à vous présenter. Exactement. Julie, dis-nous tout.
Exactement, puisque hier soir Antonin est allé voir la pièce Le Livre de l'Intranquillité au théâtre du Petit Saint-Martin. Alors je l'ai vu aussi il y a quelques semaines, C'est un seul sur scène de François Martouret, mis en scène par Anne Kessler. Le personnage principal semble être Fernando Pessoa, ou plutôt d'ailleurs Bernardo Soares, qui est un des hétéronymes donc de Fernando Pessoa. Je rentre un peu dans les détails techniques de la littérature, et c'est l'auteur du livre de l'intranquillité, donc au livre de Desassociés. Antonin, qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah écoute, c'était une pièce assez marquante. Faut dire quand même que c'est seul sur scène pendant une heure entière, un peu plus que ça. Et c'est vraiment une pièce introspective qui vient te chercher. Parfois, tu sais pas trop où t'accrocher, mais des phrases, des formules, des tournures, des situations te percutent et te font réfléchir à ta propre situation à toi. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Je suis ressorti de là et je marchais, je réfléchissais à ce qui avait été dit. Voilà, c'était un plaisir. Surtout que je n'avais jamais lu encore le livre de l'intranquillité. D'ailleurs, faudrait que je m'y mette. Mais Fernando Pessoa est un univers magnifique.
Ouais, moi non plus, je ne l'ai pas lu. Et c'est vrai que du coup, ça permet de mettre un pied dedans. Donc c'est plutôt cool. J'ai un autre événement du coup pour vous. Alors, sachez que d'ailleurs, il y a encore des représentations de cette pièce, le livre de l'intranquillité. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du Théâtre du Petit Saint-Martin. Et un autre événement, donc ce mercredi 4 juin, a lieu le premier Césaria Évora Orchestra à la Marbrerie à Montreuil. Donc l'objectif est de fêter ensemble la musique de cette immense chanteuse capverdienne. Parmi les artistes de cet orchestra, il y a Théophile Chant, qui a d'ailleurs chanté au gala de l'Hôtel de Ville de Paris sur une programmation de Cap-Major en 2013, ça remonte, hein, avec les Kalema. Alors qu'ils n'étaient pas encore connus, ils étaient à leur tout début. Et j'ai eu la chance d'interviewer donc Théophile Chant avec Camille il y a quelques jours. Je vous propose d'écouter un extrait. Donc je rappelle que vous serez la Césaria Évora Orchestra à la Marbrerie à Montreuil le 4 juin prochain. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire pour convaincre les gens et les jeunes de venir voir ce magnifique spectacle?
Tous ceux qui aiment Césaria, enfin je parle des jeunes qui n'ont pas eu la chance de le voir sur scène, parce que lors du spectacle, c'est quand même de transmettre un peu de cette ambiance que pouvaient avoir les concerts de Césaria, en respectant beaucoup les chansons qu'elle a chantées, en reprenant les arrangements quasi à l'identique, mais bien sûr avec notre touche à nous. Et je pense que c'est très important qu'ils viennent pour ça aussi, que pour soutenir ce projet. Quoi dire d'autre? Bon, nous on fait tout, on fait en sorte que tout le monde passe un bon moment. Et je pense qu'ils vont pas. Je pense qu'ils vont aimer d'être au concert.
Eh ben merci beaucoup Théophile Chant. L'interview est disponible partout sur le podcast Plus 351. N'hésitez pas à prendre vos places pour cette belle soirée capverdienne. Miguel, toi tu écoutes Césaria Évora ou pas?
Pour être honnête avec vous, pas forcément. Je connais une chanson. Par contre, mes parents aimaient, m'en ont déjà parlé, et puis je suis proche de quelqu'un qui l'a connu et qui encore aujourd'hui, quand il lance des musiques, il essaie toujours de faire des hommages. Peut-être que vous le connaissez, c'est Papa London, ouais, qui est aussi capverdien. Voilà, c'est un ami à moi.
Trop bien. Et moi, je te conseille direct. Vraiment d'aller voir cet orchestre, du coup, si t'es dispo.
Si je suis
mercredi
disponible,
à la Marbrerie.
En tout cas, j'en ai eu l'envie, là.
Bah, parfait. Alors, j'ai réussi, alors. Et Théophile aussi.
Bah merci Julie pour cette rubrique. En tout cas, tu nous as donné envie d'aller voir la pièce du livre de l'intranquillité et l'orchestra de Césaria Évora. D'ici 5 minutes, je vous présente une nouvelle personnalité dans Qualipso Qualadale. Mais avant cela, je vous propose de se mettre dans l'ambiance de cet orchestra en écoutant Petit Pays de Césaria Évora.
Estrela que cata brilhar, lina mar, boeu areia que cata moiar, espalhar nesse mundo fora, selvagem mar, terra de povo cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar, terra pop, cheio de amor. Té morna, tem coladeira, terra pop, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Que cata brilhar, e na mar boiou areia. Que cata moiar, espalhou nesse mundo fora. Só rote mar, teve pouco, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Nesse mundo fora, só bate mar, terra pouco, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pouco, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Vous écoutez Temstadoche.com sur Radio Alpha et vous arrivez à temps pour Qualepso et Qualel. Alors aujourd'hui, je vais directement vous donner la profession de la personnalité du jour, comme ça je vous donne plus de chances de deviner. Il s'agit d'un photographe. Alors toi Miguel, est-ce que tu aimes la photo? Est-ce que tu fais des photos? Est-ce que tu regardes, tu suis des photographes?
J'en suis quelques-uns, des amis en fait. Et puis j'aime la photo, j'aime bien me faire prendre en photo, ça alimente les réseaux sociaux. Sinon, pas sans plus, entre guillemets.
Ça fait toujours plaisir d'avoir des belles photos quand même de nous aussi,
bien
de temps en temps.
C'est sûr.
C'est important pour LinkedIn, pour le CV.
Oui, c'est vrai. Et puis même, ça fait plaisir de se trouver bien dans des photos aussi. Prendre la confiance en soi, c'est toujours sympa. En tout cas, on a eu la chance d'avoir avec nous, au mois de mars, une super photographe, Olga Kaldas. Si tu nous écoutes d'ailleurs, on t'embrasse. Elle était venue à l'époque nous parler de sa dernière exposition photo. Elle avait longuement parlé avec Laura. D'ailleurs, elles avaient beaucoup échangé, d'ailleurs, Laura. Si tu nous écoutes, on t'embrasse aussi. En tout cas, l'interview avec Olga est disponible sur toutes les plateformes en podcast. N'hésitez pas à les écouter. Donc niveau photographie, est-ce que vous avez des noms de photographes qui vous viennent à l'esprit comme ça?
Moi j'en ai un, mais je sais que c'est la bonne réponse, donc je vais pas le dire.
D'accord.
Ouais, moi, faut connaître aussi l'auteur, mais enfin le photographe en question, mais sinon JR notamment, Traduvière,
oui.
Ouais, très intéressant en tant que aussi un fort lien avec le Brésil.
Et je connais pas, je regarderai.
Très très intéressant.
Moi j'en suis certaine, enfin je suis certaine photographe sur les réseaux. Elles sont moins connues, enfin, c'est en France, mais c'est des trucs vraiment hyper artistiques. Il y en a une, par exemple, elle prend une photo et après elle va la retoucher vraiment beaucoup, surtout le fond, pour te faire par exemple comme si t'étais un ange dans les nuages, des trucs comme ça.
Ah oui, c'est
vraiment très, 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 très artistique. Donc,
ouais, pareil, moi, pareil, ce genre de trucs, j'adore.
Ouais.
Il y en a un que je suis, que je recommande d'ailleurs, qui fait des choses avec ce qu'on appelle le Fuji. C'est un type d'appareil photo qui permet de faire plusieurs expositions et qui, du coup, joue avec genre, une première photo qui superpose à une deuxième dans un appareil analogue. C'est-à-dire que c'est pas un montage fait a posteriori sur un logiciel de montage.
Ouais.
Et ouais, du coup, ça crée des situations très poétiques. Donc voilà, allez,
même avoir certaines pellicules qui sont voilées, tu peux avoir des trucs hyper beaux, quoi. Enfin,
ah oui,
la photo, c'est
artistique, ça peut être sympa. Ouais, j'aime beaucoup aussi.
N'oublions pas que c'est un vrai art, hein. Genre, on peut pas demander photos gratuites contre de la pub, ça ne marche pas. Je préfère le rappeler aux gens parce que...
Et sachez que c'est pas parce que vous achetez un appareil à 3000 euros que vous ferez des bonnes photos. Même avec un iPhone, vous pouvez faire des super photos. Tout est dans la technique.
C'est clair, on ne s'improvise pas photographe. En tout cas, si vous suivez certains photographes, il est probable que l'info qui est tombée ces derniers jours ne vous soit pas échappée. Puisque la personnalité du jour, comme je me le disais, photographe documentaire de profession, nous a quittés le 23 mai dernier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez vu passer cette info,
oui,
Ricardo?
Bien sûr, on l'a vu.
Donc, aucun suspense aujourd'hui,
on dit rien.
Tout le monde sait.
C'est terrible, mais en même temps, c'est un grand nom.
On te laisse faire.
T'as vu passer l'info ou pas? Bon, super. Alors, du coup, il y a encore Miguel qui en liste pour deviner. Donc, pour moi, c'est l'occasion de lui rendre hommage et de vous faire découvrir ce grand homme pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, il est né au Brésil en 1944 et est économiste de formation. Il émigre à Paris en 1969 afin de fuir le régime militaire de l'époque. Et c'est seulement une fois en France, donc vers la fin de sa vingtaine, qu'il commence la photographie. Assez improbable, finalement, quelqu'un de totalement néophyte, économiste, donc rien à voir avec la photo, qui débute une carrière dans cet art-là. En tout cas, c'est à Londres, à l'époque où il travaille dans un organisme international sur le café, qu'il se rend compte des conditions de vie et de travail des travailleurs de café et qu'il commence à s'intéresser et à capturer les premiers clichés. Ce photographe engagé commence rapidement à travailler pour de grandes agences et traverse le monde pour capturer la guerre, la misère et la tristesse de ceux qui vivent des situations extrêmes. Migrants, mineurs, victimes de famine. Donc là, on est quand même bien loin de toutes les photos qu'on peut voir sur Instagram, ou en tout cas des photographes en vogue maintenant. C'est quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus engagé.
Et ça existe encore de nos jours, et je peux vous dire, les photos sont toujours aussi percutantes.
Oui, c'est clair. J'imagine bien. On ressent vraiment... quelque chose. Je pense que c'est aussi ça le but de la photo et de l'art, c'est de te faire ressentir des choses assez fortes et te faire réfléchir.
Ou alors tout simplement de montrer la réalité des choses et comme telle qu'elle est, hein, on peut voir sur plusieurs conflits que c'est très compliqué et ces photographes capturent exactement ce qui se passe.
C'est clair. Et justement, tu l'as ? Ah, trop cool. Je vais vous laisser bientôt, je vous proposerai la question en bonne et due forme pour que vous me disiez ce que vous pensez. Donc, il est parti témoigner des conditions de travail, notamment dans les mines d'or de Serra Pelada, au Brésil, en 1986. Et c'est à cette occasion qu'il a choisi pour la première fois de travailler en noir et blanc. Et c'est quelque chose d'assez inhabituel pour l'époque, puisque justement, tout le monde fait de la couleur et c'est un peu la nouvelle mode. Donc, c'est un pionnier du retour à la photo en noir et blanc. Et depuis, il n'a fait que du noir et blanc. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de rester sur le noir et blanc et d'éviter la couleur?
Je pense que ça dépend des photographes. Olga, elle fait aussi coup, du noir et blanc. Elle nous avait dit qu'elle trouvait ça toujours mieux en noir et blanc. Même si elle essayait de retourner à la couleur, au final, elle n'y arrivait pas.
Ah, c'est une question de style aussi.
Ouais, j'ai un prof de peinture, pas de photo, qui me disait qu'il fallait toujours commencer par les valeurs, donc par le noir et blanc. Parce que c'est comme ça que tu commences à comprendre les différences de contraste et à composer véritablement une image qui ait du sens, de la force et qui ressorte. Et du coup, de passer d'abord par le noir et blanc, tu te concentres plus sur la structure et la puissance de la photo même, et pas sur la couleur.
C'est beau.
Ouais, c'est très beau, effectivement. Bah, c'est un peu ça. En tout cas, c'est l'argument donné par ce photographe. Et que justement, le noir et blanc, les nuances de gris donnent quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus profond, et surtout nous incitent à se focaliser plus sur le visage des gens plutôt que sur, je sais pas, la couleur de leurs vêtements ou des choses qui seraient pas importantes, des choses que le photographe ne veut pas forcément mettre en avant. Donc cette fois, je ne laisse pas le suspense plus longtemps. Dites-moi, à votre avis, de qui il s'agit?
Vas-y, Miguel.
Salgado.
Ouais, c'était ça.
J'ai un peu de son prénom.
Sébastien Salgado.
Bien vu.
Mon père aussi a trouvé.
Félicitations au père de Julie. Bon, en tout cas, quand j'ai vu vraiment cette info, j'étais très peinée. Ça a été pour moi l'occasion de revoir pas mal de ces clichés les plus beaux. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil si jamais vous ne le connaissiez pas. En tout cas, au niveau de son historique, je continue rapidement de vous donner plus d'informations sur ce photographe. Il a voyagé dans plus de 100 pays et a suivi les plus grandes tragédies de la fin du XXe siècle, comme je vous disais, afin de montrer une réalité qu'on ne veut pas voir. Entre autres, le massacre au Rwanda, les guerres yougoslaves, la prise de Kaboul par les talibans, etc. Et justement, suite à son travail au Rwanda, qu'il décrit comme l'une des périodes les plus difficiles qu'il ait eu à documenter, il décide d'abandonner la photographie. Il a vraiment été très affecté par sa mission et a souffert énormément de ce qu'il a vu et a pris cette décision de se retirer en fait du monde de la photographie. Suite à cette décision, il retourne au Brésil et reprend la ferme de ses parents, celle où il a grandi. Et là, il retrouve une terre qui est dégradée et en très mauvais état, où les espèces qui y vivaient ont disparu. Et là, je trouve ça assez drôle parce que c'est un peu comme une renaissance à la fois pour lui et pour sa photo, puisqu'en fait, il décide de replanter sur cette ferme toutes les espèces natives et recréer une biodiversité autour de cette terre qui était inexploitable, qui était en friche. Et à ce moment-là, il reprend un peu espoir en la vie, il reprend un peu espoir en la nature, et il décide de reprendre la photo, mais en photographiant plutôt des communautés, en photographiant finalement la beauté du monde qui nous entoure, plutôt que tout ce qu'il avait l'habitude de photographier avant, c'est-à-dire la famine, des personnes qui souffraient, etc., etc. D'ailleurs, il dira plus tard, c'est la terre qui m'a guéri. Je trouve que c'est une très belle citation. Et finalement, c'était une remise en jeu aussi pour lui de changer totalement d'axe, de passer d'une photographie documentaire engagée à une photographie beaucoup plus en lien avec la nature, avec les êtres humains, les êtres vivants. Et en tout cas, c'est un changement qui lui a réussi. D'ailleurs, si vous allez à Reims ou si vous êtes à Reims ce week-end ou dans les prochains jours, sachez que son fils a organisé une exposition. Donc, je vous invite à aller la voir.
Ça va être absolument magnifique. J'ai souvenir d'une des expositions qu'il y avait à La Défense, il y a trois ans, de Sébastien Sagrado, où il avait fait installer un pavillon de bambou au beau milieu de cette jungle de métal et de béton. Et justement pour montrer ses photos sur l'eau. En fait, c'était l'exposition qui s'appelait Aquamateurs. Et donc, c'était beaucoup de photographies du Brésil, de l'Amazonie, évidemment. Mais aussi des conditions des gens qui y vivaient. Et d'avoir réussi à implanter ça au beau milieu de La Défense, c'était à la fois... Il y a un côté ironique et cynique, mais évidemment, c'est ce qui interpelle le plus, c'est le contraste. Et un peu, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la valeur et sur les contrastes. Une magnifique expo. Et du coup, s'il y a à nouveau une expo à Reims, faut qu'on saute dessus.
Allons-y, Antonin. C'est pas si loin que ça. Donc, finalement, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Bon, ce serait quand même sympa qu'il y ait une expo à Paris, un peu plus près et un peu plus faisable. Mais très sympa. Il y avait aussi une exposition sur des peuples d'Amazonie à la Philharmonie de Paris, où il y avait aussi une musique créée tout autour de l'exposition photo, qui était très sympa. J'ai pas vu l'exposition photo, mais j'en ai entendu parler et je regrette de pas l'avoir suivie. En tout cas, on continue juste après avec la rubrique Golo de Ricardo. Mais avant, je vous laisse avec le featuring que le groupe Napa nous avait annoncé à demi-mot il y a quelques semaines. Hier soir, ils ont donc sorti la musique Infinito avec Vanzi.
Cava no meu fim o infinito. Cava no meu fim o infinito. Olha como é que vai. Nem estás a reconhecer. Vê-me nos pontos. Quem é que podias ser agora? E a dor perdura.
Um ponto final numa frase tão breve. Ainda tenho presente nas frases que escrevo. Presente tirado tão cedo. Prometi a mim mesmo que não seria guiado pelo medo. Às vezes não dá, mas tu sabes que eu tento. O tempo passado abafado, tu passado o tempo. É uma infinidade de momentos. Eu saí tão cedo de casa, sem forma de saber se a minha alma sabe. Na minha almofada já sonhei que os tempos em que tinha ao meu lado. No infinito.
Espera por mim, de alma desfeita, vejo onde o amor me deixa caminhar.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha. D'ici 15 minutes, ce sera le moment de l'interview avec le chanteur Miguel Santos. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer vos questions sur le WhatsApp au 06 62 10 98 60. Mais tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Golo avec Ricardo.
Agora, no Tempestade 2.1.
Alors dis-nous tout, quelles sont les infos sportives qu'il ne fallait pas manquer cette semaine ?
Alors on commence par l'événement de la semaine, que dis-je ? Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Ce soir, c'est la finale de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain contre Inter Milan. Et si je vous parle de cette finale, c'est qu'on a évidemment des Portugais, Vitinha, João Neves, Nunes, Gonçalo Ramos, sans oublier Marquinhos et Beraldo, les Brésiliens. Tous ces joueurs jouent pour le PSG, donc on espère qu'ils remporteront la Ligue des Champions. Miguel, t'as un petit prono pour ce soir ?
Bah, moi je suis persuadé, le cœur et l'esprit me disent qu'on va gagner. En tant que technicien, enfin de tacticien de foot, je pense qu'on va gagner aussi parce que j'estime qu'on est au-dessus. Donc pronostic, franchement, j'ai envie de te dire un 2-0 avant la 90e.
Ok, 2-0, on retient. Julie, t'es stressée ? Toi qui habites à côté du centre d'entraînement du PSG ?
Non, moi je suis pas stressée. Mais voilà, j'espère juste qu'il y aura pas trop de pétards. Pour mon chien, c'est tout.
Et il faut rappeler qu'il y a plus de 5000 officiers de sécurité, donc police, gendarmes, sur les Champs-Élysées et dans Paris. Donc il faut insister sur l'importance de cet événement. Autre info foot, et pas des moindres, puisqu'il y a également une autre finale. La CRC en des moins de 17 ans a remporté son match face à l'Italie au tir au but. Et devinez contre qui le Portugal se retrouve en finale ?
La France,
exactement. On espère vivre un 2016 version jeune. En tout cas, les deux équipes sont quand même pas mal du tout. Franchement, ça promet. Lundi dernier, nous avons eu le traditionnel Gala do Desporto qui récompense les meilleurs athlètes portugais de la saison. Et voici les résultats. En entraîneur de l'année, le gagnant est Ruben Amorim. Alors, je ne comprends pas cette décision. Voilà, il a tout perdu cette année. Et il y est. Bon, bah, faut qu'on m'explique. Mais bon.
C'est le vote du public. Hein.
Bah, c'est ça, hein, il vote pour le plus connu, je pense. Bon, jeune promesse. Francisco Costa, le handballeur. L'équipe de l'année, Yuri Leitão et Rui Oliveira en cyclisme. Ils sont récompensés de leur magnifique parcours aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'est totalement mérité, à mon sens. Joe Cancel qui remporte le prix du meilleur athlète handisport en natation. Ça se battait également avec Christine Gonçalves en boccia.
Moi, j'avais voté pour Diogo. Donc.
Mais bon. Athlète féminine de l'année, Patricia Sampaio en judo. c'est logique, c'est la meilleure femme, en tout cas athlète femme pour le judo et pour toutes les catégories. Et enfin, athlète masculin de l'année, Yuri Leitão qui fait le doublé, voilà, le vainqueur de l'épreuve des Jeux Olympiques en cyclisme, le médaillé d'or, remporte également un deuxième prix, et c'est merci pour Vianney Westad aussi, on va pas se mentir. En revanche, en judo, terrible nouvelle, la fédération portugaise est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Parce que la Fédé doit rembourser une dette de 800 000 euros, c'est énorme. Alors rassurez-vous, les judokas peuvent toujours participer à des compétitions, mais seulement sous bannière neutre. Et on finit ce flash sport par un résultat qui vient tout juste de tomber. Le pilote de F2, Evan Domingues, a remporté la course sprint du Grand Prix de Formule 3. Un résultat très positif pour la jeune pépite portugaise qui lui permet de marquer des points très importants dans son développement de jeune pilote.
Et pour le portrait aujourd'hui, tu nous parles de tennis.
Exactement, parce qu'en ce moment, c'est Roland Garros, le meilleur tournoi de l'année en tennis, le meilleur grand chelem pour être plus précis. Il fait beau, il fait chaud et on a du spectacle en tribune et sur le court. On a eu l'hommage très émouvant de Rafael Nadal en début de semaine, accompagné de sa famille, son staff et ses trois plus grands rivaux. Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray. L'Espagnol a fait ses adieux officiels au tennis. Mais il y a quelque chose d'incroyable qui s'est produit. Un Portugais a brillé cette semaine et a même réussi à éliminer le numéro 8 mondial, Casper Ruud. Je parle évidemment de Nuno Borges. On en a parlé depuis pas mal de temps. Mais ce qu'il fait depuis un an est tout simplement phénoménal. Je vais donc vous parler de lui aujourd'hui. Alors, Nuno Borges est né le 19 février 1997 à Maia, au nord du Portugal. Et dès l'âge de 6 ans, il développe une passion pour le tennis. Ses parents, Virginie et Paulo, inscrivent leur fils à l'école de tennis de Maia. Et dès le début, on remarque que le petit a un talent raquette en main, qui peut devenir un grand tennisman portugais. Son parcours junior en atteste par la suite. Champion national junior en 2013 et en 2014, l'espoir portugais se forge petit à petit un an. En 2016, Nuno Borges franchit une étape décisive en s'envolant pour les États-Unis afin d'étudier la kinésiologie à l'Université d'État du Mississippi. Et là-bas, il brille sur les cours universitaires. Vice-champion NCAA en 2009, le Portugais termine sa carrière universitaire avec un impressionnant bilan de 121 victoires pour 23 défaites en simple et 68 victoires pour 42 défaites en double. En simple, il est juste phénoménal. Un bilan très positif à l'entame de sa carrière professionnelle. En 2019, Nuno Borges passe pro. Et petite question, est-ce que vous savez comment ça se passe une carrière pro dans le tennis?
J'imagine que c'est comme à peu près les autres sports. T'es payé pour les compétitions, un truc comme ça.
Je sais que c'est assez galère, notamment en termes de charge d'entraînement.
Je vais répondre comme ça, vous allez comprendre. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, les joueurs doivent s'inscrire à des tournois, donc ils doivent payer pour s'inscrire à des tournois. Et les tournois sont dans différentes villes du monde, sur différents continents et sur différents courts. Donc vous avez le dur, le gazon, la terre battue. En ce moment, on est sur saison de terre battue. Et plus ils avancent dans le tournoi, plus ils remportent de l'argent. Parenthèse fermée, on revient donc à Nuno Borges. Nuno entame sa carrière sur le circuit ITF et plusieurs titres en M15 avant de s'imposer sur le circuit Challenger. En 2021, il décroche son premier titre à Antalya en Turquie, mais c'est en 2022 qu'il marque les esprits. Il remporte le Challenger de Barletta en Italie, puis en double, il triomphe à Estoril aux côtés de son compatriote Francisco Costa. Le duo portugais décroche son premier titre ATP. Mais c'est l'année dernière que la carrière de Borges prend un nouveau tournant. En janvier, il réalise un exploit historique en atteignant les huitièmes de finale de l'Open d'Australie, devenant ainsi le deuxième joueur portugais à réaliser cet exploit après João Sousa. Il élimine successivement Maximilian Matterer, Alexandre Davidanovich Fokina et Grigor Dimitrov, confirmant son statut d'espoir du tennis mondial. Mais le moment le plus marquant de sa carrière survient en juillet 2024, lors du tournoi de Båstad en Suède. En finale, il affronte le légendaire Rafael Nadal, qui domine en 2-7, 6-3, 6-2. Une victoire historique qui lui offre son premier titre ATP, le place parmi les grands du tennis mondial. À 27 ans, Nuno Borges devient ainsi le deuxième joueur portugais de l'Air Open à remporter un titre en simple sur le circuit principal, après donc João Sousa. Battre Nadal, c'est absolument phénoménal quand même, quand on y pense.
Ouais,
c'est clair.
Et à Roland-Garros, on peut dire qu'il a fait un parcours correct, voire encourageant, puisqu'il a quand même éliminé le numéro 8 mondial, donc Casper Ruud. Donc, battre un top 10, c'est un exploit. Mais il s'est incliné au troisième tour face à Alexei Popirine, 25e mondial. Nuno Borges peut néanmoins sortir la tête haute. Le Portugais est promis à une belle carrière.
Merci Ricardo. Restez avec nous. D'ici 5 minutes, ce sera l'interview avec Miguel Santos. En attendant, hier, le rappeur Damso a sorti son album Beya, attendu par les fans depuis plus d'un an maintenant. Je vous propose d'écouter Magic par Damso et IA.
Des nuits blanches devant l'interphone, priant que tu viennes sonner. Je me sens seul depuis le berceau de vrai, si je suis honnête. Je te jure que les
donne-moi de l'espace. Le monde est méchant, méchant comme dirait Stanislas. J'suis dans le sale, mauvais garçon, chien de la casse. J'suis dans le bas, la dépression fait surface.
Magique, elle me complimente. Tragique, c'est le temps qui manque. Jadis, j'avais sentiment. Tragique, c'est le temps qui manque.
Tempestade 2.1 sur Radio Alpha, vous arrivez à temps pour l'interview avec Miguel Santos. Alors Miguel, t'es chanteur, auteur, compositeur.
Yes.
Tu proposes aussi des musiques lusophones, enfin principalement d'ailleurs,
okay.
Et notamment beaucoup de featuring, par exemple avec Luyana et Letinox dans Près de moi qu'on a écouté tout à l'heure. Je crois que Julie a plein de questions à te poser.
Exactement, et pour que les gens apprennent à te connaître un peu, je te propose de faire par ordre chronologique, ok? Donc t'as commencé sérieusement la musique, tu m'as dit, à partir de 2020, donc au moment de la pandémie, du confinement. Déjà, pourquoi pas avant?
Sérieusement, quand on dit sérieusement, c'est à lancer mes propres chansons,
ouais,
à faire mes choses moi-même, pas parce que j'avais pas les moyens budgétaires. Et puis le Covid, ça nous a aidé dans le sens où il y avait rien à faire. Donc à ce moment-là, on se dit, vu que c'est cher, viens, j'apprends, je fais moi-même. Et en apprenant soi-même et en sachant tout, sans prétention, tout faire soi-même, niveau budget, ça revient moins cher.
Oui, c'est clair.
Parce que plus besoin d'aller payer des heures en studio, plus besoin d'aller... tout ce qui englobe, hein, les lancements des musiques, etc. Donc,
Du coup, tu as enregistré les sons de toi-même chez toi?
Avec Letinox, dans le studio qui a été créé justement pendant la pandémie.
Vous avez créé un studio ensemble?
J'ai plus ramené des choses. C'est chez lui, c'est dans son garage qu'il a aménagé. Moi, je me suis ramené, moi, ma bonne humeur, un micro, une carte son à l'époque, qui a été changée depuis. Et voilà. Hein. Et puis, on a grandi ensemble.
Justement, du coup, depuis le début, tu travailles avec Letinox.
Mm-hmm.
Comment est-ce que vous êtes connus et pourquoi vous avez décidé de travailler ensemble, surtout?
Nous, on s'est connus, en fait, il y a très longtemps, bien avant la pandémie, on s'est connus, sans te dire de conneries, vers 2013, par là. 2013 en 2014, parce qu'en fait on travaillait dans une boîte de nuit. En fait, moi je travaillais, si tu veux, dans le restaurant de cette boîte de nuit en apprentissage, et lui il travaillait dans la boîte de nuit directement en tant que DJ Light à l'époque, s'il m'écoute, et j'espère que je me trompe pas.
On l'embrasse.
On a fait connaissance à l'époque avec d'autres amis aussi, et puis c'est toujours resté.
Et du coup, toi, t'étais déjà intéressé par le milieu de la musique à l'époque?
Oui. Et moi, et lui. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on est devenus amis depuis le début.
Ok. Comment est-ce que ça a commencé, toi, l'intérêt pour la musique? Tu nous as dit tout à l'heure en off quelque chose qui m'a fait quand même assez sourire. C'est que si tu faisais pas de musique, tu serais devenu animateur radio.
Ouais, c'est quelque chose que j'aurais sûrement voulu faire parce que j'ai toujours voulu travailler avec ma voix. En fait, je trouve que j'ai une voix assez radiophonique et c'est quelque chose qui m'intéresse, hein. La radio, les podcasts, tout ce qui est en relation avec la voix, les voix off, les films, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours plu. J'adore faire des imitations. Et c'est sûr que si je n'avais pas fait de la musique, j'aurais sûrement fait quelque chose en relation avec la voix. Et pour rebondir à la question, oui. La musique, c'est venu très tôt chez moi. J'ai mon premier souvenir, si tu veux, moi, je devais avoir 3-4 ans, premier souvenir musical. J'étais dans la voiture avec ma mère en train d'écouter une chanson et là je chantais, je voyais que je savais faire un vibrato, je savais que et j'ai dit c'est sûr que je veux faire ça dans ma vie. Je savais pas qu'on pouvait être chanteur, qu'on pouvait vivre de la musique, mais je savais que je voulais faire ça.
Comment ça a été perçu par tes parents, le fait que tu veux devenir chanteur? Parce que parfois ça fait peur vu que c'est des métiers artistiques.
Ouais, je pense que ça leur a fait peur. Mais ils ont pas eu le choix. Ils ont été assez compréhensifs. Ça leur a fait peur, c'est sûr. Mais en fait, moi, à l'intérieur de moi-même, je savais que c'était ça et pas autre chose. Et puis, je pense que si jamais ils auraient pas accepté,
l'aurais fait quand même.
Ouais. J'aurais pas hésité, je l'aurais fait quand même.
Bah, franchement, t'as bien fait, du coup.
Merci.
Tu chantes beaucoup en portugais, moins en français. Mm-hmm. Pourquoi avoir choisi cette langue principalement?
Déjà, je suis né. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis d'origine brésilienne. Je suis né au Portugal, donc directement la première langue qui est venue en moi, que j'ai appris à comprendre, à lire, à écrire, c'était le portugais. Et puis, je pense que c'est quelque chose d'envie en fait. Hein. C'est pas que j'aime pas la musique française. Au contraire, j'adore ça. Mais si je pense que je serais pas capable forcément d'écrire quelque chose pour respecter la musique française, alors autant faire ce que je sais faire.
Oui, parce que tu sais, nous on avait reçu du coup Louyana avec qui tu as travaillé et elle chantait aussi en espagnol.
Yes.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà attiré ou qui est plus simple peut-être pour se faire un nom?
Je pense que l'espagnol ça a été quelque chose beaucoup plus simple il y a quelques années. Je vais dire dans les années milieu des années 2000-2010 avec le boom du reggaeton à l'international et aujourd'hui la langue portugaise c'est une langue qui est aussi en vogue je pense. Je pense que pour la réussite aujourd'hui ça se vaut hein, que ce soit la langue portugaise ou la langue espagnole.
Ouais, c'est grâce à des Anita, des Vincenzo.
Exactement.
Ok, bah oui, parce que Luana, elle fait quand même aussi du portugnole. T'as jamais essayé?
Non. Après, faut savoir écrire dans la langue espagnole. Hein.
Oui.
Les Chinox, il y arrive parce qu'ils parlent espagnol. Moi, non. Je comprends, mais je pourrais pas écrire.
Ouais.
C'est impossible.
Pas encore, on sait jamais. Il est bientôt 15h sur Radio Alpha. D'ici 5 minutes, on continue notre conversation avec Miguel autour de tes projets à venir. Avant cela, je vous propose d'écouter Fugir de toi, Miguel.
Levantar a poeira da estrada, beber pouco, chegar de madrugada. Felicidade não tem hora marcada. Quem sorri pra vida não tem medo de nada. Me voy aquí por la carretera, beber una copa, passar la noche entera. Yo sigo pa'lante que nadie me para. Esta vida no es nada. Eu quero ver o sol.
ti. Yo no voy a mirar atrás, mi corazón quedó aquí.
Vou fugir, levantar a poeira da estrada, beber pouco, chegar de madrugada. Felicidade não tem hora marcada, quem sorri pra vida não tem medo de nada. Eu quero ver o sol.
Vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Themestadt 2.1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Et on est toujours en interview en compagnie de Miguel Santos.
Oui, alors Miguel, il y a un sujet que je voulais absolument traiter avec toi. Tu es en indépendant, en indé, tu fais tout seul. C'est ce que tu nous as dit d'ailleurs tout à l'heure. Pourquoi ?
C'est par hasard. Si tu veux, moi-même, j'ai commencé à comprendre ce système-là de maison de disques, label, etc. Il y a pas si longtemps, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à tout savoir faire tout seul, j'ai compris que je faisais le taf d'un label. Et donc, forcément, j'avais pas besoin ni l'envie d'aller dans un label parce que ils vont me brider. Dans le sens où ils ont des gens sûrement beaucoup plus connus que moi sur qui ils doivent miser de l'argent. Ce qu'il faut savoir, quand t'es signé en label, tu payes rien. C'est ton label qui s'occupe de toi pour les enregistrements, pour les lancements, etc., les clips. Sauf que ils vont faire en fonction de la notoriété des personnes qu'ils ont dans leur label. Et s'il y a des gens beaucoup plus connus que moi, moi par exemple, j'aime bien lancer des sons tous les mois, une musique nouvelle tous les mois. Si je peux, je le fais. Si je serais signé en label, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais. Ça me briderait, je serais triste. Donc c'est plutôt par hasard, mais j'en suis très heureux.
Ok, mais franchement, c'est hyper impressionnant de voir des artistes qui font vraiment tout, parce que je pense que les gens se rendent pas compte que quand on parle de musique, il y a pas juste la musique et juste je chante, je fais la musique, voilà. Il y a toute la com derrière. Créer un album, c'est créer vraiment un objet entier. C'est impressionnant que tu le fasses tout seul. Vraiment, félicitations.
Merci beaucoup. Et puis, félicitations à tous ceux qui font comme moi.
Exactement.
Qui dédicacent à tous ceux.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique? Est-ce que tu leur conseillerais justement de faire ça en indé ou d'essayer d'avoir un label?
Ce que je conseillerais, c'est surtout d'être heureux. S'ils voient qu'il y a quelque chose qui va pas bien, qui leur rend triste, qui les stresse. Après, moi, je suis très croyant, tu vois. Donc, moi, je retrouve mes réponses au petit quotidien, dans les choses de la vie. Je me dis que Dieu est en train de me donner ces réponses là. Donc ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut être surtout se concentrer sur son bonheur. S'ils vont dans un label et qu'ils sont très heureux, allez-y. Si vous sentez le besoin d'être seul pour pouvoir faire ce qui vous ressemble au plus à vous, bah soyez heureux et faites. C'est le conseil que j'aurais donné.
Effectivement, c'est un bon conseil. J'espère que tout le monde a bien noté dans son petit calepin les conseils de Miguel. Et tu sors bientôt de nouvelles musiques pour l'été. T'en as plusieurs de prévues. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
C'est compliqué. Alors, il y a un featuring avec David Moka et Lechinox qui va être lancé. D'ailleurs, le clip, on va le tourner demain. pour ceux qui s'intéressent, demain à Paris, à l'avenue Marceau, donc ça va être compliqué avec la parade si Paris gagne, et je pense qu'ils vont gagner quand même. Puis ensuite, j'ai un featuring avec un artiste international qui va faire très 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 mal. Je vous en dis pas plus, mais quand vous verrez, je pense que comme disent les jeunes, vous kifferez.
Et puis
exactement.
Tu nous l'enverras, on le passera sur Temstat de Spontan.
Et j'ai encore un featuring avec Luyana qui sortira en juillet.
Trop bien.
Ouais. Et d'ailleurs Luyana qui sort un son avec l'Etinox demain si je me trompe pas, ouais. Aujourd'hui. En tout cas là qui s'appelle Calaboca,
qu'elle nous avait chanté ici. Vous pourrez réécouter d'ailleurs sur les podcasts si jamais vous voulez l'écouter en version live. D'ailleurs, tu sors beaucoup de featuring là, parce que tu nous parles vraiment beaucoup de featuring. Qu'est-ce que ça change pour un morceau d'être en featuring ou en solo, et pourquoi est-ce que tu préfères l'un ou l'autre?
En fait, il faut suivre l'air du temps. L'air du temps, avant, on pouvait se permettre d'avoir des musiques qui faisaient 5 minutes, 4 minutes, même 3 aujourd'hui, c'est limite, ça devient beaucoup. Aujourd'hui, et c'est Spotify d'ailleurs qui nous l'a appris, les gens, ils apprennent 8 secondes. Ce qui fait que ça a dû retourner complètement la façon de faire de la musique. Avant, tu commençais par une intro, un couplet, un refrain. Aujourd'hui, tu as une petite intro, directement tu commences la plupart du temps par un refrain. Donc l'intéressant de faire des featuring, c'est de rapporter les auditeurs de chacun avec l'autre, et puis faut avoir son nom un peu partout. Avant, si tu veux, t'avais, on va dire, avec la TNT, t'avais 18 chaînes où il fallait être. Aujourd'hui, il faut être sur toutes les chaînes télé, toutes les chaînes YouTube, dans tous les réseaux sociaux. Donc, plus ton nom il est quelque part, et ça passe par les featuring, plus t'es vu, plus t'es connu. Donc,
Ok. Et la façon de faire la musique, du coup, c'est quand même vachement différent, du coup, de faire un single solo ou en featuring. Comment est-ce que tu procèdes, toi, généralement?
Moi, j'ai deux façons de procéder. Même plusieurs, hein, mais on va dire pour moi-même, soit je suis devant mon ordinateur, je compose d'abord, et puis je fais par rapport à la vibe, j'essaie de trouver des top lines, et avec ça, j'écris le texte, ou alors j'ai ma guitare. Je peux avoir déjà écrit le texte, et avec la guitare, c'est beaucoup plus simple de trouver les accords qui vont bien avec le texte qu'on a écrit. Et puis après, on fait l'arrangement musical ensuite sur l'ordinateur. Et voilà, c'est comme ça que je procède.
Ok, bah en tout cas, on a hâte d'écouter les prochains morceaux, notamment ce gros featuring que tu nous as annoncé, mais aussi tous ceux qui vont sortir, qui vont sûrement être les musiques de l'été, comme Près de moi avec Luyana et l'Etinox. Et d'ailleurs, tu vas bientôt monter sur scène au Portugal. Mmh. Où est-ce que tu vas cet été? Où est-ce qu'on peut te voir?
Pour ma première scène d'ailleurs au Portugal, première scène à mon nom, je serai en train de chanter à l'All Stars Emigrant à Braga le 14 août. Il y aura notamment Caris, Lucenzo.
Sympa.
Ouais, et plein d'autres artistes. Mike Tagait.
Trop bien. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller. Prenez vos billets dès maintenant. Et d'ailleurs, est-ce que tu voudrais pas nous donner un petit aperçu de ce que ça donne un morceau en live, du coup, avec ta guitare?
Yes.
Alors, il me semble que tu vas nous chanter Non se importe, c'est ça?
Exactement. Okay. Non se importe, c'est un titre à moi, solo, du coup, que j'ai sorti en janvier 2024. C'est une musique que j'avais lancée pour les 10 ans d'une chanson. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je vais la faire ici très rapidement. C'était à peu près comme ça. E eu não tenho carro, não tenho teto, e mesmo assim ela diz que... Ah, não, só se morre. C'était ça. Et puis moi, j'ai repris la mélodie pour les 10 ans, et j'en ai fait, et j'ai fait ma version. Donc, si je peux la faire, on peut commencer?
Vas-y, quand tu veux.
Donc, c'est à peu près comme ça. Já tô ficando doidinho, não para de me provocar. Sabe
que não tô sozinho, mas não para de me olhar. Me diz que posso fazer, me diz que posso fazer. Ela não se importa. Me diz que posso fazer, me diz que posso fazer. Ela não se importa. Se eu já tenho dama, não sou solteiro. E mesmo assim ela diz que não se importa. Quer me pegar lá no banheiro. Pegar gostoso e me beijar o tempo inteiro.
Uau!
Merci.
Bravo, c'est trop bien. Mais oui, effectivement, cette musique me dit un truc. Je l'ai déjà entendu. Et je pense que j'ai déjà entendu ta version aussi.
Ah, avec plaisir.
Donc, vraiment, trop bien. On se l'écoute juste après en format studio quand même, pour que les gens l'aient en entier. Mais franchement, félicitations, c'était trop
merci.
Sympa. On
merci
a adoré.
Beaucoup.
Vous en avez pensé quoi?
Exactement, c'est un super,
super
morceau.
Cool. Et donc, raison de plus pour venir te voir à Braga le 14 août, pour voir ça en live avec, j'imagine, plus d'artifice que juste ta guitare. Comment est-ce que tu prépares tes shows alors?
Ça dépend, ça dépend du public, hein. Ça dépend du public, de l'endroit, de l'ambiance, où je vais plutôt ramener un DJ, ou alors si je peux monter sur scène avec les musiciens, ça c'est ce que je préfère, mais c'est pas toujours évident. Mais j'aimerais pouvoir faire un truc à la Linkin Park avec et mon DJ et mes musiciens.
Ah oui, ça serait top.
Ah, ça serait énervé.
Et tu ramènes les Tinox à Braga?
Non, parce qu'il sera pas là. Sinon, oui. Ah. J'en ai déjà parlé. Mais après, on n'y est pas encore. Hein. Il peut décider de partir au Portugal en speed comme ça.
D'ailleurs, tu vas aussi jouer en France en septembre.
Oui. En septembre, ça sera pour mon anniversaire. En fait, je vais faire 30 ans du MIS.
Wow.
MIS, donc, c'est moi, Miguel Santos. Il y aura plein d'invités. Ça sera composé que de mes amis chanteurs. Donc, pour ceux qui sont déjà confirmés, donc les Tinox, Luyana normalement, Brendo Valli et Giova, c'est un chanteur brésilien aussi, Lia Silva, une fille avec qui j'ai déjà fait un featuring aussi. J'attends encore la confirmation, mais normalement ça sera bon aussi, de Sanella, pareil, une fille avec qui j'ai fait une collaboration qui montera directement de Montpellier jusqu'à Paris pour venir. Donc ouais, je pense que ça va être une excellente c'est pas une soirée, ça va être un dimanche, une excellente journée pour fêter mes 30 ans.
On est tous invités.
Vous tous, tout le monde.
Trop bien. J'espère
qu'on entrée gratuite en plus.
Ah ouais.
Oui, ça.
Tu sais comment nous parler.
C'est à nous de prendre bonne note, alors. De noter sur notre petit carnet.
On note. Merci beaucoup. Et tu préfères, du coup, les festivals plutôt en France ou au Portugal pour jouer?
Moi, je préfère qu'il y ait du monde, c'est tout.
C'est pas difficile. Ah non, non.
Tu vois, tu sens pas une différence entre les deux?
Franchement, dire la vérité, le public qui m'a le plus mis une claque, c'est le public belge.
Ah ouais?
Ah ouais. Mais j'en avais déjà entendu parler. Hein. On m'a souvent dit que le public belge, c'était un public fort. Et on m'a pas menti, mais après c'est deux, je pense, hein, parce que quand on va là-bas, et c'est des bons vivants, quand ils te parlent, ils parlent fort. Et...
Non, c'est culture, quoi.
Voilà, et je pense que c'est que ça vient d'eux, et qu'après à force, je pense que eux-mêmes dans leur tête, ouais, le public belge, donc ils ont une réputation à tenir. Et j'étais dans un bar à l'époque, je chantais avec en duo avec quelqu'un. J'étais dans un bar où il y avait environ une centaine de personnes, j'avais l'impression d'avoir 2000 ou 3000 personnes devant moi, c'était incroyable.
Ah, ça c'est bien quand on est dans des petites salles et que le public est vraiment au rendez-vous.
Très réceptif, ouais.
Je pense que c'est le meilleur. Mais écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, d'avoir des publics pareils, et cette fois des 2000, des 5000, des 10 000. On te souhaite d'arriver à ces magnifiques scènes. Nous, on suivra évidemment ton travail. Et puis on sera là le 7 septembre, j'imagine. Du coup.
J'espère.
D'ailleurs, juste une petite parenthèse, en parlant de Linkin Park, ils vont être à Lisbonne en 2026, oui. En juin, à Rock in Rio Lisboa. Donc, faut pas hésiter non plus à aller voir, à aller assister à ce concert, parce que c'est une opportunité qu'on peut pas manquer.
Avec la nouvelle chanteuse en plus.
Ouais.
Incroyable, hein, d'ailleurs, son passage.
Est-ce que tu auras un dernier petit message à laisser à nos auditeurs ou aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique ou... N'importe.
pas forcément aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique. Alors oui, moi je suis attaché à la musique, donc si vous aimez l'art et la musique en général, faites. Mais la seule chose que j'ai à dire à tout le monde, c'est soyez heureux, croyez en vous surtout, laissez personne vous abattre. Et faites le plus pour être heureux. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'en étant heureux, vous ferez en sorte que les gens qui vous aiment, ils soient heureux avec vous, et c'est le plus important. Battez-vous pour être heureux. C'est tout ce que j'aurais à dire.
Et écoutez la musique de Miguel Santos.
Quel beau message. Merci Miguel d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, nous sommes avec vous jusqu'à 16h. Et d'ici 5 minutes, ce sera le moment de la curiosité de la semaine avec Ricardo. En attendant, on s'écoute la version studio de Nothing Importe. Après cette magnifique version acoustique, on va pouvoir avoir la version en entière en studio. Hâte de l'écouter.
Ficando doidinho, não para de me provocar. Sabe que não tô sozinho, mas não para de me olhar. Me diz que posso fazer, me diz que posso fazer. Ela não se importa, ela não se importa. Me diz que posso fazer, me diz que posso fazer. Ela não se importa. Eu já tenho dama, não sou solteiro. E mesmo assim ela diz que não se importa. Quer me pegar?
Sur Radio Alpha. Aujourd'hui, nous avons deux curiosités de la semaine. Dis-nous tout, Ricardo.
Et cette semaine, on a des curiosités assez disparates, on va dire ça comme ça. On commence avec une nouvelle, une fierté même, puisque Porto et Gaia ont été nommés capitale mondiale du sport 2028. Cela reflète la reconnaissance de l'effort pour affirmer la pratique du sport comme pilier essentiel de la vie dans les villes susmentionnées, selon le communiqué. La mairie de Vila Nova de Gaia affirme qu'il s'agit d'un nouveau chapitre dans l'histoire du sport portugais, soulignant que c'est la première fois que le Portugal reçoit cette distinction de l'Association des capitales et villes européennes du sport, donc la fameuse ACES. Et j'ai une deuxième curiosité un peu moins fun. Il faut le dire, seulement 19% des Portugais de l'étranger auraient voté pour les législatives, un score très bas. Il faut rappeler que les élections sont toutes importantes et qu'il faut aller voter. Et on en a beaucoup parlé sur Tempestad, Julie.
Exactement, et à savoir aussi que, en réalité, les chiffres qu'on a par rapport au nombre de votes et d'abstentions, etc., il y a eu aussi beaucoup de pertes, en réalité, des enveloppes. Parce que vous savez, on est beaucoup à avoir voté, et je pense que vous aussi ici, par voie postale cette année, et comme les années précédentes. Et moi, je parle d'expérience, j'ai des proches qui n'ont, par exemple, jamais reçu l'enveloppe pour pouvoir voter. Et on a entendu dire, enfin, il y a plusieurs médias portugais qui ont expliqué qu'il y a eu beaucoup d'enveloppes perdues entre le trajet du pays du citoyen et entre le Portugal, quoi. Donc c'est quand même assez grave de se dire ça. Ça veut dire que les députés qui ont été élus, félicitations à eux, quels qu'ils soient, mais ils ont été élus sur un échantillon vraiment très très minime
de la population en réalité qui a potentiellement voté aussi, dont le vote n'a pas pu être pris en compte. Donc comme quoi le vote électronique, ce serait peut-être pas si bête. Moi, je dis ça comme ça.
Clairement, c'est, en tout cas, il faut arriver à mobiliser d'une quelconque manière les gens et de les faire investir dans la vie de tous les jours, la vie de la ville.
Exactement.
Déjà que c'est pas évident de réussir à justement mobiliser les gens et pousser les gens à voter. Si en plus les gens qui eux ont envie de voter ou qui ont été convaincus à voter reçoivent pas forcément leur enveloppe, c'est vrai que c'est assez dissuasif.
C'est ça. C'est qu'on n'a même pas l'effet escompté après notre effort. Si en plus après notre vote n'est même pas comptabilisé les décisions. Voilà.
Toi, Miguel, tu l'as pas reçu non plus.
J'ai jamais reçu quoi que ce soit pour voter là-bas.
Dingue, hein.
Pourtant, je suis né là-bas.
Ouais.
Jamais. Donc, comment est-ce que. Pourtant, j'ai mes avis, mes idées. Et puis en contrepartie, j'ai jamais voté en France, alors que j'habite ici, et j'aimerais le faire. Et je pense que ça serait bien qu'en fait, à partir du moment où t'es légal dans un pays, où t'as tes papiers, où je pense que la personne qui est dans le pays et qui suit seul le cours du pays puisse voter en fait. Que ça soit nous pour là-bas pour le Portugal, ou alors. Toutes les communautés qui sont toutes ici, enfin même des gens qui sont pas forcément de la communauté européenne mais qui ont leur titre de séjour et qui sont légales en France, pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas habiter là, enfin voter pour eux?
Il faut rappeler surtout que les élections dans lesquelles les personnes étrangères du pays peuvent voter, c'est les européennes et les municipales.
Donc les européennes, faut avoir du coup la nationalité européenne.
En tout cas, l'année prochaine, il y a les municipales, donc vous pourrez voter, on peut vous le dire.
Ouais, en tout cas, le vote important, c'est un droit et un devoir. Ne pas l'oublier.
Merci de le rappeler, Julie, et merci à toi, Ricardo, pour ces curiosités de la semaine. Juste après, ce sera Antôle Disquaire de Porto, la rubrique musicale de la semaine. Mais avant ça, on s'écoute Beijo Roubado, le dernier single de Yves Andrew, chanteur qui sera d'ailleurs à Herblay, au Festival do Imigrantes, le samedi 28 juin prochain.
No meio da confusão, magoado, mas ninguém tinha razão. Precisa de criar, estragar a minha vida. Precisa, mas viciada, nada na menina. Eu nunca quis encontrar quem desapareceu. Uma ilusão passageira, onde se perdeu. O próprio coração também nunca quis falar. Acabei por te magoar. Se vir raios de sol, vamos ficar melhor. Pra sempre conformado, eu nunca quis viver com a dor. Um beijo roubado no meio da confusão, magoar. Mas ninguém tinha razão. Precisa de criar, estragar a minha vida. Precisa, mas viciada, nada na menina. Mergulhei na noite quando as estrelas ouvi o silêncio. Juro que tô pior com o passar do tempo. Perdemos intimidade, ouvimos o eco da saudade. Pelas ruas da cidade, onde vais me encontrar? Eu sempre conformado, eu nunca quis viver com a dor. Um beijo roubado, no meio da confusão, magoado. Mas ninguém tinha razão. Precisa de criar, estragar a minha vida. Precisa. Mas viciada, nada na menina.
Agora, no Tempestade 2.1.
Será que o Antoné voltou a encontrar hoje?
Tempestade 2.1 da Rádio Alfa, a rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para Antônio Disquer de Porto. Antonin, quem apresentas hoje?
Hoje eu apresento muitas coisas, mas sabem que apresentantes artistas portugueses, como lusófonos em geral, e de vez em quando, sai deste universo que é mesmo incrível que conhecemos todos aqui para descobrir outras músicas e culturas. Já passámos, às vezes, no início do ano, pelo Japão, pela Espanha, por Porto Rico e outros. E hoje queria fazer-lhe descobrir uma parte bem particular da cultura do norte da África com a qual temos a ligação forte enquanto portugueses, e que seja tanto na arquitetura, na língua como na música, a influência destas povoações em Portugal é muito forte. Já adivinharam de que povoação estou a falar?
Tenho uma ideia, mas...
Da Argélia?
Exatamente, faz parte da Argélia. É isso.
Marrocos também?
Também, porque eu não vou falar de uma nacionalidade precisa. É mesmo mais um povo, é o povo berbere. Na Argélia é mais os cabelos, que são mais uma etnia. E vou apresentar tudo isto através de um cantor icónico cabelo, é o Idir. Talvez conheçam, que descobri graças a um amigo Argel, argelino meu, que agradeço. E a música do Idir, que também é conhecido como Hamid Shariat, atravessou as fronteiras e as culturas através da Europa e o mundo inteiro. Para começar, não escolhi uma música dele, não, mas uma cover feita nos anos 80 em França. Assim podemos aproveitar da sua música com letra que conhecemos e que compreendemos. Mas então, a guitarra ligeira também, que encontramos na versão original e na cover, pode fazer-nos lembrar o fado português ou o flamenco. E agora, vamos ouvi-la, é Ouvre-moi vite la porte por David e Dominique, a versão traduzida da música original Avava Inova de Idir.
N'ouvre pas. Tu as voulu partir un beau jour, sans mots, sans même un baiser. Nous qui te donnions tant d'amour, nous qui faisions tout pour t'aider.
J'ai voulu partir un beau jour, je n'étais pas apprivoisé. Mais votre amour était si lourd que je m'en suis débarrassé.
As-tu toujours sur toi cette écharpe de laine si fine que ta mère avait faite, qu'elle t'avait donnée?
Non, je n'ai plus sur moi cette écharpe de laine si fine. Je l'ai donnée un jour à celui que j'aimais. La 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 la, je l'ai donnée un jour. La 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 la, à celui que j'aimais. Ouvre-moi vite la porte et me veille ou pas.
J'entends cette voix m'appelle ma fille au dehors à froid.
Les loups de la vie me guettent et me veillent ou pas, et me veillent ou pas.
J'ai si peur pour toi ma fille, mais la porte n'ouvre pas. Malgré ma peine et mes efforts, la porte ne s'ouvre pas. La neige qui tombe dehors gèle le fer, gèle le bois.
Je sais que malgré tes efforts, la porte ne s'ouvrira pas. Car il te faut mes remords, mais hélas je n'en ai pas.
Pourquoi faut-il toujours que tu dises des mots si noirs, alors que tu es si jeune et tu es notre espoir?
Pourquoi
Faut-il toujours que tu dises les mêmes mots? Si je reste dehors, je vais mourir bientôt. Si je reste dehors, je veux mourir bientôt. Ouvre-moi vite la porte et réveille-nous pas.
J'entends cette voix m'appelle, ma fille au dehors a froid.
Les loups de la vie me guettent et veveille-nous pas, et veveille-nous pas.
J'ai si peur pour toi ma fille, mais la porte ne s'ouvre pas.
Ouvir era David e Dominique, dois cantores franceses um pouco desconhecidos. Eu tenho que confessar, não conheci nada deles e nunca vi ninguém que conhecia, mas deixaram a sua marca na história com essa cover do Idir, a música do cantor Kabil, que é ela mítica no mundo do norte da África e também pelas outras partes do mundo, foi traduzida em grego, em outras línguas, sobretudo por volta do Mediterrâneo. Então é A Vava Inova, é a canção original, que é uma canção de embalar, composta em 1976 por Idiri Mohamed Ben Amadouche, que é conhecido como Ben Mohamed para a cantora Nuara. A Nuara foi uma das primeiras cantoras da música argelina em língua cabila a introduzir música moderna em alguma das suas canções. A letra da versão original é mais assim. O sucesso foi imediato. A canção galvanizou a população argelina, bem como outras populações do norte da África, e depois espalhou-se pelo mundo. Não foi traduzida, que pena, em português, mas talvez vamos fazer isso daqui a pouco. Pois a cultura cabil, e mais em geral, a cultura do povo berber, foi disseminada por todo o norte da África e até além na Península Ibérica e em França. Os berberes não são uma única nação, como dizia antes, são espalhados maioritariamente entre Marrocos, Argélia, também em Tunísia, em Líbia e nas montanhas no deserto do Sahel. Todos aqui conhecemos a invasão pelos mouros na Península Ibérica, aprendemos nas aulas de história, mas não o facto que não era uma só população unificada. Era uma mistura de povos berberes e árabes que eram mais em competição do que aliados, os primeiros sendo muçulmanos sémitas e outros sunitas. Por razões políticas complexas entre árabes e berberes, os berberes ficaram a ocupar mais uma parte, um tempo só, a Galiza, o que acrescentou a proximidade entre portugueses e berberes. Hoje, por exemplo, em Portugal, chamamos essa invasão do norte da África pelos a invasão pelos mouros e não árabes. Em Espanha, por exemplo, chamam Al-Andalus pelos árabes. Porque a palavra de mouro vem do Tamazig, a língua dos berberes. Depois da Reconquista, também, Portugal expandiu-se em Marrocos entre 1415 e até 1769, um longo período de 354 anos de guerra constante, já que a presença portuguesa nunca foi aceita. Tomaram e depois perderam muitas cidades e praças fortes, entre as quais Tanger, Arzila, Ceuta, Alcácer de Seguer, Mazagão, entre outras, mas a população local, entre árabes e berberes, dependente das zonas, defendeu-se ferozmente. Além da história belicosa entre a Península Ibérica, Portugal e o norte da África e os berberes, essas culturas têm muitas similaridades. Quando estavam na Península Ibérica, a cultura berber era muito mais próxima da ibérica dos árabes, porque os berberes faziam parte do Império Romano Estendido, com Cartago e tudo isso, e falavam também um pouco latim, às vezes uns mais a pessoas mais importantes na sociedade. Além da língua, da arquitetura e da cerâmica que conhecemos muito, com os azulejos, as mesquitas, tudo isso, a música também recebeu influência do norte da África e há artigos de antropologia que refletem sobre as similaridades entre os berbers e as músicas tradicionais galaico-portuguesas, sobretudo nos instrumentos, nos ritmos e na melodia e nas percussões. É um dos aspectos mais importantes. É E um dos aspectos mais importantes também é a letra e os temas das músicas. O que é o que diz mais do, da cultura de um povo é o que canta. Na música que acabamos de ouvir, por exemplo, a versão original Abau e Nuba, mas também na música que vamos ouvir agora, Sendo, e particularmente a tradução, temas cruzam-se. Cultura e aspectos da mitologia, da reflexão filosófica cruzam-se. E como diz o Idir, nas nossas culturas que têm sempre esse forte caráter tradicional, é assim que vivemos. E vão ver nesse excerto da sua introdução do concerto em Poitou, em região parisiense, onde o cantor argelino faz uma homenagem às mulheres da sua vida e convida-nos a fazer igualmente. E domingo que acabou de passar em França era a Festa das Mães. Espero que todas aqui festejaram isso da melhor maneira que seja possível. E também, da minha forma, queria dar essa homenagem através da música do Idir com a Sendo.
Et c'est là où j'ai compris une chose, cette image de femme qui était là, subissant la loi du milieu, du mal, et qui se confiait donc à une chose inerte. Et c'est là où j'ai compris une chose assez importante dans ma vie, c'est que ce n'est déjà pas évident d'être une femme en général, dans n'importe quelle société, qu'elle soit moderne, avancée, aboutie ou non. Je crois que ça allait encore moins dans des sociétés à forte tradition telles que la mienne. Et j'en voulais pour preuve cette dame qui se trouvait être ma mère. Et à ce titre, j'ai l'habitude donc de la partager avec vous en vous demandant une chose bien simple, ce que je fais depuis pas mal de temps. Essayez ce soir, ce samedi soir à plus tôt, d'avoir dans votre tête une image claire, précise, lumineuse de celle qui vous a donné la vie. Quelques centaines de personnes étaient là ce soir. Mais cette soirée banale devient exceptionnelle dans la mesure où c'est quelques centaines de personnes. Il n'y avait ni Marocains, ni Algériens, ni Français, ni Tunisiens, ni autres. Il y avait simplement quelques centaines de cœurs qui étaient là, les uns à côté des autres, prêts à sortir d'eux-mêmes ce qu'ils ont de meilleur en émotion, en amour, en tendresse. Et que dans un élan commun, en pensant à elle, bien sûr, j'imagine une boule émotionnelle monter dans le ciel, traverser la mer et puis aller s'éparpiller en millions et en millions de petits morceaux, chaque petit morceau étant un tout petit peu de bombe dans leur cœur meurtri.
Era a introdução do Sendo pelo cantor argelino Idir e a sua homenagem às mães na introdução. O título significa Via Láctea. É uma canção que encapsula os temas do desejo ardente, da nostalgia e ligação, tanto como património pessoal como cultural. O próprio título sugere uma perspectiva cósmica, onde o amor e as memórias se entrelacem com a imensidão da existência. Através das suas letras, o Idir convida os jovens a refletir sobre as suas próprias experiências, ao mesmo tempo que as enraiza nas ricas tradições dos seus antepassados. Na minha opinião, essa música e a música do Idir em geral ressoa muito com a nossa cultura. A primeira vez que ouvi as suas músicas, sem compreender as letras, eu senti toda essa emoção e a complexidade melancólica de uma forma similar a quando ouço o fado. É isso que é incrível com a música, que é uma forma de linguagem que não sempre necessita compreensão perfeita para perceber a emoção original, ou pelo menos que ressoa com a nossa própria experiência e que temos uma mensagem, cada um tem uma mensagem, recebe uma mensagem diferente. A música berber pode ressoar connosco, como a Ir Comigo ressoou, e espero que sentiu também o mesmo efeito. Ao mesmo tempo, com a emoção da música, mas também com a história e a cultura vizinha dos berbers com as populações da Península Ibérica, os berbers também são similares a nós, são um povo orgulhoso com fortes tradições, tal como os portugueses. Idir sempre foi também um advogado do internacionalismo, do respeito e da partilha das culturas, e hoje continua a ser uma mensagem, mesmo depois da sua morte, uma mensagem muito importante neste clima de desconfiança e do medo dos outros e dos estrangeiros. Podemos ser nós uma ponte entre as almas e as culturas para garantir a paz e impedir mais formas de violência.
Obrigada, Antonin. Vamos ouvir então Pourquoi cette pluie de Idir e voltamos daqui a 5 minutos para os bons plans.
Tant de pluie, tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici, l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures ou laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message, est-ce un cri du ciel? J'ai froid à mon pays, j'ai froid. As-tu perdu les rayons de ton soleil? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un bienfait, est-ce pour nous punir? J'ai froid à mon pays, j'ai froid. Faut-il le fêter ou bien le maudire? Chercher dans le livre qui sait, au creux de ses versets, j'y ai lu, cherche les réponses à ta question, cherche le trait d'union. Une mendiante sur mon chemin, que fais-tu dans la rue? Mes fils et mon mari sont partis un matin, aucun n'est revenu. Pourquoi cette pluie? Pourquoi cette eau, ces nuages qui nous étonnent? Elle dit cette pluie, tu vois, ce sont des pleurs pour les yeux des hommes. C'est pour vous donner des larmes, depuis trop longtemps elles ont séché. Les hommes n'oublient pas les armes quand ils ne savent plus pleurer.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Tempsta Deutschpontung touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine.
Oui, alors tout d'abord, un nouvel épisode de Plus 351, le podcast de Cap Magellan, est disponible depuis hier. C'est sur la fierté par rapport à la langue portugaise. Je vous invite à aller l'écouter. Nous cherchons aussi des nouveaux animateurs radio, n'est-ce pas Miguel? Bénévole pour Tempstad de Spontvon et technicien. N'hésitez pas à candidater sur le mail tempstad@capmagellan.com. Le O Encontro Europeu de Jovens dos Descendentes, c'est aussi la rencontre organisée par Cap Magellan tous les étés aux alentours de la Journée mondiale de la jeunesse. Cette année, ça aura lieu à Cascais entre le 7 et le 12 août. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, tout est pris en charge, le logement, le transport et la nourriture. Donc inscrivez-vous sur le formulaire disponible sur le site de Cap Magellan. Pour les événements à venir, on vous en a parlé tout à l'heure, donc le 4 juin à la Marbrerie à Montreuil a lieu un concert sur Césaria Évora, le Césaria Évora Orchestra, à ne pas manquer. L'association Salle Careil organise son premier gala de rêve en région parisienne. Rendez-vous le 6 juin à 20h au Pyramide à Port-Marly. Il y aura un cocktail de bienvenue, un dîner caritatif, ainsi qu'un concert exclusif de Tony Carrera et d'autres artistes. Plus d'informations sur le site saracarrera.com. Le week-end prochain, donc le 7 et 8 juin, a lieu la traditionnelle fête franco-portugaise de Ponto Combo. Cette 50e édition aura lieu comme d'habitude au parc de l'hôtel de ville. Cette année, l'entrée est d'un coût symbolique de 2 euros qui seront reversés à l'association Sara Carrera. Prenez vos places, nous on y sera. Le 14 juin a lieu au Colisée dos Recreios de Lisbonne, la deuxième édition de Rire à Lisbonne, des humoristes français qui se représentent dans la plus belle salle de la capitale portugaise. Laurie Perret sera de retour comme maîtresse de cérémonie et vous allez pouvoir gagner à partir de lundi des billets avec Radio Alpha. Plus d'informations et achats sur le site rirealisbonne.com. Et enfin, le 18 juin à 20h30, la chanteuse Bevinda est de retour à Paris pour un spectacle vibrant et plein d'émotions. Prenez vos places sur le site du studio de l'Ermitage. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Timstad de Chponton et Cap Magellan sur tous les réseaux sociaux pour ne rien rater.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à toi également, Miguel, d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors dis-nous, est-ce que tu as quelque chose de plus à ajouter? Est-ce que tu as des dédicaces à laisser?
Je voulais tout d'abord remercier pour l'invitation. Ça m'a permis de venir parler et parler davantage sur ma carrière et sur ce qui va arriver. Et puis j'aimerais faire une dédicace à ma femme et mes deux enfants qui doivent être sûrement en train de m'écouter.
On les embrasse.
Et tous les artistes amis avec qui j'ai l'habitude de collaborer.
En tout cas, merci encore. On a hâte de ta grande soirée en septembre. On y sera. N'hésitez pas, vous aussi, à venir. Est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux, peut-être?
Oui, c'est très simple. Miguel Santos Quintor. Partout, que ce soit sur TikTok, Instagram, tous les réseaux, même YouTube. Miguel Santos Quintor.
Parfait. Ouais. N'hésitez pas du coup à suivre Miguel Sainz sur tous ses réseaux sociaux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. On se laisse donc avec Easy Lover de Miley Cyrus et on vous souhaite une excellente semaine à tous.
Ciao. Oui, faites attention ce soir si jamais vous allez sur les Champs-Élysées.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas, e podcast do site radioalfa.net. Tempestade 2.1.